Bonjour. Oh, on est où ici? Bon, au moins tout le monde me voit. Vous allez bien? Très content de vous voir. Ça va? Est-ce que vous êtes encore, vous avez assez d'énergie et de concentration pour suivre la suite à travers ce message? J'aimerais premièrement prendre le temps pour vous remercier vraiment pour votre invitation. J'aimerais remercier l'équipe pastorale, la pastorale au complet d'avoir pour la confiance que vous me faites de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai entendu dire que c'était le bizutage des nouveaux. Donc, on va l'assumer. Mais merci beaucoup pour la confiance que vous me faites et d'avoir osé peut-être prendre le risque. Mais je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour le privilège que j'ai aujourd'hui de pouvoir vous apporter ce message qui est cher sur mon cœur depuis plusieurs semaines. J'aimerais prendre aussi la peine. Merci pour l'histoire que tu nous as racontée. C'est vraiment, vraiment touchant. Merci pour ce temps de louanges vivants. Hein? Mon Dieu a vaincu la mort. Est-ce qu'on est d'accord qu'on célèbre un Dieu qui est vivant? On n'a pas à être bloqué, coincé, gêné de ce qu'en dira-t-on. Il est vivant. La mort est vaincue. Donc c'est bon, c'est réglé. La joie, la paix de Jésus est avec nous. Et j'aimerais remercier aussi donc, chacun et chacune d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Et un merci tout particulier à mon église, pas tant en tant que pasteur, mais en tant que membre à l'église du CEP qui me porte, premièrement, qui m'ont accueilli, ma famille et moi-même, comme pasteur depuis maintenant 7 mois ou presque, et qui m'ont porté aussi par la prière durant les semaines passées pour me permettre de pouvoir apporter le message que je m'apprête à vous communiquer de la meilleure façon possible. C'est précieux d'avoir des personnes qui prient pour nous, donc je suis vraiment très, très reconnaissant. Et en parlant de prière, j'aimerais simplement qu'on puisse ouvrir par un mot de prière, ouvrir la prédication parce que la réunion a déjà débuté. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es là, tu es présent. Dans la variété de nos caractères, de nos étiquettes d'église, tu es là. Tu nous connais. Et comme on l'a entendu, tu nous aimes. Tu es notre roi. Tu es celui en qui et sur qui nous pouvons nous reposer. Et Seigneur, on veut te dire merci Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ton esprit qui nous unit. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu as fait parvenir jusqu'à nous en ce 21e siècle. Parole qui a été persécutée. Parole qui a connu des moments durs, mais tu n'as pas permis, Seigneur, qu'elle disparaisse. Merci Seigneur, parce que tu es vivant et par ton Saint-Esprit, cette parole n'est pas simplement une lettre, mais Seigneur, ton Saint-Esprit peut littéralement donner vie à ces mots, donner vie à cette parole qui est la tienne. Et je te prie que chacun, que là où nous sommes, chacun et chacune, nous puissions ressortir de ce lieu avec une portion nouvelle, une portion fraîche de ton cœur, de ton ciel dans nos vies, que nous puissions ressortir de là avec, en ayant fait, Seigneur, une découverte ou un pas de plus auprès de toi, Seigneur, que tu puisses vraiment mettre la paix, la joie, la liberté, Seigneur, dans nos cœurs. Et je me soumettre à toi ce matin et te dire, Seigneur, fais et dis ce que tu as à faire et à dire à travers et malgré toutes mes imperfections, Jésus-Christ. Amen. Amen. À quoi ça sert est le titre de ce message. À quoi ça sert d'avoir un lit royal si on ne peut pas se coucher dedans? À quoi ça sert d'avoir de la lumière s'il n'y a pas d'éclairage? À quoi ça sert d'avoir un smartphone sans connexion? Well, oui, on peut s'en servir jusqu'à un certain point. Ou je dirais plus un smartphone déchargé. Ça sert à quoi? On peut se vanter du super smartphone, dernier modèle, extraordinaire, etc. Mais s'il n'est pas chargé, à quoi ça sert? Et le texte que Philippe nous a lu, qui est le cœur de ce message, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il y a à cette notion de à quoi ça sert. Il y a, il paraît, environ 14 000 usages des effets bénéfiques du sel à travers le monde, donc je ne vais pas prendre trop de temps pour décrire tous les effets bénéfiques du sel. Nous savons qu'au temps de Jésus, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le sel a quand même, et plus que jamais au temps de Jésus, le sel a cette capacité de conserver les aliments, de freiner la corruption des denrées. C'est une capacité aussi à guérir. Il y a une capacité aussi, évidemment, à donner du goût. C'est intéressant de voir aussi, de savoir qu'il fut une époque où les premiers Romains recevaient leur salaire en quantité de sel. Et d'ailleurs, ils recevaient ce qu'on appelle le salarium. Ça a donné le nom qu'on connaît aujourd'hui, notre salaire. Alors, je trouve intéressant de s'arrêter un instant et qu'on se rappelle ce que la Bible, elle dit, que le salaire du péché, c'est la mort. Et sachant que certains, il fut une époque où les gens étaient payés en salarium, en sel, et que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est intéressant de réaliser qu'alors que le salaire du péché, c'est la mort, à travers cette citation, ce que Jésus dit, est en train de dire, vous êtes le salaire de ma grâce, pour cette génération, c'est votre vie, c'est votre présence. Nous sommes la richesse de notre environnement. Nous sommes la récompense de notre environnement, de notre entourage, si on fait une analogie entre le sel et le salaire. Chimiquement, il semblerait que chimiquement parlant, le sel ne peut pas se dénaturer au point de perdre sa salinité. Au niveau du contexte, il semblerait que le sel, à l'époque de Jésus, que l'on retirait de la mer morte, pouvait se dénaturer au contact de l'humidité ou du soleil, ou un des deux, ou les deux. Et les cristaux n'avaient pas les mêmes particules que le sel, la même stabilité. Et lorsqu'il se dénaturait, évidemment, ce sel était juste bon à jeter par terre. Et on nous dit qu'on s'en servait pour le jeter sur les dalles du temple pour éviter aux personnes de glisser. Mais peu importe. De façon biblique et pratique, on peut se poser la question, mais est-ce que le sel, est-ce qu'on peut perdre notre saveur? Est-ce que nous pouvons perdre notre lueur? Eh bien, nous savons, je crois que nous sommes plusieurs à avoir connu des personnes, et de façon biblique comme pratique, nous avons tous connu quelqu'un, à quelque part, à un moment donné, qui a bien commencé sa course et qui ne l'a pas terminée, qui l'a mal terminée. Je parle de la course de la foi. Et je ne crois pas que Jésus était tellement intéressé à s'attacher aux propriétés chimiques du sel. C'est une image qu'il donne. Et si Jésus soulève la question, prend la peine de soulever la question, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je pense que juste le fait qu'il aimait la possibilité que ça arrive soulève effectivement que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Il y aurait plusieurs façons. Plusieurs exemples, mais j'aimerais souligner trois façons possibles de perdre notre saveur et notre lueur. C'est ce que j'appelle l'ABC de la chute libre. Nous pouvons perdre notre saveur ou notre lueur en abandonnant notre premier choix. On va regarder plus en détail notre premier choix d'engagement envers Jésus. Nous pouvons perdre notre saveur, notre lueur, en banalisant le péché dans nos vies. Et nous pouvons perdre notre saveur et notre lueur en cessant de nous nourrir de la parole de Dieu. Il y a, hormis le passage qui était lu par Philippe dans Matthieu 5, versets 13 à 16, c'est le seul passage où l'on voit sel et lumière cités dans le même souffle, dans la même phrase de la part de Jésus. Mais hormis ce texte-là, il y a trois autres endroits dans les évangiles où Jésus va faire allusion soit au sel, soit à la lumière. Et je vais vous la faire courte, mais on va passer rapidement pour qu'on puisse comprendre dans quel contexte est-ce que Jésus parle lorsqu'il parle de sel et de lumière. Donc Luc 14, verset 34, très rapidement, on voit qu'il est question du sel aussi, que le sel est une bonne chose. Et ce texte-là, Luc 14, 34, le contexte de ce texte est précédé de la condition d'un renoncement total. C'est cet endroit-là où il va dire que celui qui veut me suivre doit me préférer à sa propre famille, à soi-même. Et celui qui veut me suivre et qui ne se charge pas de sa croix ne peut pas devenir être mon disciple. Et donc, dans ce contexte-là, les versets qui précèdent, Jésus fait allusion à ça. Et il y a, dans ce texte-là, un appel à suivre Jésus. La deuxième allusion, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 50. Donc, vous voyez, un appel à suivre Jésus dans un contexte où il y a un renoncement total. Donc, si j'abandonne mon premier engagement, mon premier amour, mon premier désir, eh bien, c'est sûr que je suis... Comment garder ma vitalité si je suis déconnecté de celui qui est source de ma vitalité, c'est-à-dire Jésus? Marc 9, 50, encore une fois, le sel y est fait allusion. Et cette fois-ci, le contexte de ce texte-là est précédé d'un ordre à se séparer de ce qui nous fait chuter. Hein, il va dire, si ton œil, si ta main, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, c'est un ordre, coupe-le. Évidemment, vous avez compris qu'on ne va pas sortir les haches et les tronçonneuses cet après-midi ou aujourd'hui. C'est une façon de parler, éloigne-toi, sépare-en-toi, tiens-toi loin de ça. Et implicitement, il y a dans cette allusion-là un appel à fuir le compromis. Si Adam et Ève se sont laissés séduire, nous sommes appelés à fuir le compromis. Et je peux perdre ma saveur lorsque je banalise le péché dans ma vie. J'aimerais dire que le compromis moral dans nos vies est le germe de toute corruption spirituelle. Le compromis moral dans nos vies est le germe de toute corruption. Et le troisième et dernier passage, c'est dans Luc chapitre 8, où là, cette fois-ci, il n'est pas question de sel, mais de lumière. Et le contexte de ce texte-là nous parle de la parabole de la bonne semence qui est criblée. Il y a dans ce texte-là un appel à cultiver la parole que nous avons reçue. Cette parabole de la bonne semence qui est criblée, elle est criblée par le diable, représenté par les oiseaux. Elle est criblée par un manque de discipline personnelle qui fait en sorte que lorsque le feu de l'épreuve, la chaleur de la persécution arrive, on manque de racines et on ne tient pas le coup. Elle est criblée par des distractions, par le plaisir, les soucis, les richesses de la vie. Et en moralité, celui qui ne cultive pas la parole de Dieu en lui ne supportera pas le feu de l'épreuve. Et si nous ne cultivons pas la parole de Dieu en nous, dans une génération où nous sommes tellement, plus que jamais, appelés à gauche et à droite à être suroccupés, eh bien nous allons perdre, nous prenons le risque de perdre notre saveur, de perdre notre lueur. Et c'est là qu'on arrive à Matthieu chapitre 5, notre texte, verset 13, où sel et lumière sont mentionnés. Et le contexte de ce texte-là est précédé par les béatitudes de ceux qui lui appartiennent. Heureux ceux qui... Et dans ce texte-là, il y a un appel à faire la différence. C'est-à-dire qu'il va dire, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et les béatitudes se terminent en disant, heureux ceux qui sont persécutés, encore une fois, le feu de la persécution. Jésus sait ce que les siens vont vivre. Dans les béatitudes, on voit qu'est-ce qui nous caractérise, nous, enfants de Jésus. Trois choses. Nous sommes heureux, persécutés, récompensés. C'est ce qui nous caractérise. Heureux ceux qui. Vous serez persécutés. Il y aura des moments difficiles. Mais vous serez récompensés. Et au lieu de les cajoler, puis mes pauvres petits, je suis vraiment désolé, mais il fallait que je le fasse, alors je vous plains. Non, Jésus va les encourager à tenir ferme et pour cela, il va leur communiquer, écoutez bien ceci, il va leur communiquer sa propre vision les concernant et la vocation à laquelle il les appelle. Jésus va leur communiquer sa propre vision nous concernant et la vocation à laquelle nous sommes appelés. J'ai bien dit, c'est pour ça que j'ai écouté bien ceci, c'est Jésus qui communique sa propre vision. Ce n'est pas une vision à l'américaine, ce n'est pas une vision des grandeurs, ce n'est pas une vision qu'il a saisie dans un livre ou après un séminaire d'implantation d'église, c'est la vision même de Jésus pour vous et moi, pour toutes les églises. Voici cette vision, elle est très simple. Je l'ai déjà mentionné. Verset, il est là. Nous avons ici la vision propre de Jésus à notre égard. Vous êtes le sel. Voici comment je vous vois. Voici votre vocation. Voici votre rôle. Vous devez amener une différence. Il y a un appel à la différence. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quand je dis vous, ce n'est pas moi qui vous parle. Je me mets à la place. C'est comme si Jésus nous dit vous. Il y a sa vision de l'Église et sa vocation. Et alors qu'il sait que nous allons passer des moments difficiles, au lieu de s'apitoyer, il va les encourager, dire « Voici, vous êtes le sel de la terre. Je vous appelle à faire une différence. » C'est impossible de faire la différence sans être différent. Prochain verset. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau ou mettre un habit par-dessus. C'est un non-sens, comme l'histoire vient de nous le raconter. Avant de mettre la prochaine diapo, le mois passé, je pense à peu près, je suis allé au cinéma. Des fois, je vais à l'église, des fois, je vais au cinéma. Je vais plus souvent à l'église qu'au cinéma. Je suis allé voir le fameux Rocky Balboa, Creed 2. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Creed 2? Bon, maintenant, peut-être vous n'osez pas lever la main, mais OK. OK, moi, je suis un fan de films d'action dans l'ordre du raisonnable. Et il y a une scène qui m'a transpercé. Une scène, je pense que c'est sûrement pas la scène que la majorité des gens qui ont vu ce film ont retenue, tellement elle passe presque inaperçue. Mais elle m'a transpercé cette scène-là. C'est cette scène-là qui a donné le titre de ce message. Et c'est au moment où le grand Rocky Balboa sort de chez lui. Il est exactement comme je suis là, sauf qu'il y a des escaliers, puis la rue est là, il y a un lampadaire. Et là, il râle. Est-ce que tout le monde connaît Rocky Balboa, juste pour savoir si on est sur la même? Ok, bon, d'accord, je suis rassuré, je peux continuer alors. Sinon, je vais changer d'illustration. Et en sortant, il s'adresse à Adonis, le nouveau détenteur du titre, qui se prépare pour le grand combat. Et en sortant, elle est courte, la scène. Il fait nuit, et Rocky sort.
Ouais, à quoi ça sert d'avoir un lampadaire si ça éclaire pas? Ça fait des années que c'est comme ça, je les ai appelés, je dis, et puis ça sert à quoi?
Voyez-vous, on rit, mais quand j'ai vu, et puis c'est drôle, c'est sûr, mais quand j'ai vu cette scène, ça m'a transpercé le cœur. Ça m'a transpercé le cœur. Parce que la réflexion que je me suis fait, on a vu la phrase déjà à quoi ça sert, la prochaine, la réflexion que je me suis fait, c'est la suivante. À quoi ça sert d'avoir des églises sur Gex si elles n'ont pas d'impact? Et là, je vous entends. Hey, toi, le nouveau, tu viens d'arriver. Espèce de prétentieux. T'es qui pour dire qu'on n'a pas d'impact? Non, comprenez-moi. Comprenez-moi bien, je vais m'expliquer. Je sais qu'il y a un impact. Je sais que ici, plusieurs personnes de toutes les églises réunies ensemble vont par exemple visiter les personnes âgées à la maison de tout jeune, je pense, c'est ça. On peut penser au club d'été, chaque année où il y a un impact. On peut penser à la banque alimentaire, qui a un impact. Je crois que c'est une façon d'être le sel et la lumière de ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas d'impact. Ce que je suis en train de dire, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a un impact comme ça ou un impact comme ça? Moi, je vais voir si elle est allumée. Elle n'est pas allumée. Mais vous comprenez le principe, je ne vais pas passer ma réunion là-dessus. OK, on va la laisser comme ça, c'est bon. Quel est le degré de notre impact? On est appelé à être le sel et la lumière du monde, pas le sel d'une saison dans l'année, d'une lumière d'un événement. Et je ne méprise rien, comprenez-moi. On est appelé à être le sel de la terre, tout au long que le souffle de Dieu nous sera prêté dans notre vie. Pas plus tard que cette semaine, j'ai eu le privilège d'être présenté à la mairesse de Prévesin avec mes chers amis. On était trois Philippe, alors ça c'est toute une visite. Vous êtes Philippe, ok. Non, nous ne sommes pas la Trinité, non, on vous rassure. Et on a eu un très très bel échange avec Madame Charillon, notre chère mairesse Aurélie. Et elle nous pose la question, comment est-ce que vous faites face aux défis de notre société? Elle dit, je pense aux familles éclatées, je pense au taux de suicide au pays de Gex, qui est aussi élevé que Paris ou en deuxième position, qui est la deuxième cause de mortalité au pays de Gex. Comment est-ce que vous faites? Puis là, on discutait, on échangeait, puis dans ma tête, je me disais, en fait, elle est en train de nous demander clairement, comment est-ce que vous vous organisez pour être une saveur là où il n'y a plus de goût de vivre? Comment est-ce que vous organisez pour offrir une lumière d'espoir là où les gens n'ont aucune solution? Ça m'a donné encore une claque. Évidemment, j'ai tâché de répondre du mieux que je pouvais. Et elle mentionne ceci, prochaine diapo. Elle dit, quand même, notre population au pays de Gex atteint presque 100 000 personnes. Presque 100 000 personnes. Là, j'aimerais, je vais vous présenter quelque chose, on va rêver un peu, puis en même temps, on va avoir le vertige pour l'espace d'un instant. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai été transpercé par cette phrase. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des églises au pays de Gex si elles n'ont pas un plein impact, je devrais dire comme ça? On va commencer par rêver. Ici, nous sommes, à l'heure qu'on se parle, nous sommes approximativement, je pense de façon précise, 7 églises représentées, on pourrait dire entre 7 et 10. Admettons que nous soyons 10, on n'est pas 10 églises représentées, en tout cas pas à ma connaissance, mais on va, admettons, qu'on ait 10 églises représentées dans ce lieu. 10 églises. 10 églises locales. Admettons maintenant, on va prendre la prochaine, admettons que nous sommes, que chaque église locale, chaque dimanche que l'on se rencontre, ces 10 églises locales, accueille 500 personnes. Pas parce que c'est Pâques, Noël ou on a invité grand-maman. Non, de façon régulière, chaque semaine. Là, on rêve, hein, on est d'accord? Ben, j'espère que c'est un rêve. Parce que ça veut dire que ces 500 personnes, c'est toutes des personnes qui aiment Jésus, qui se confient en lui, qui mettent leur destinée entre ses mains, qui se réjouissent, qui retrouvent justement la lumière au bout du tunnel, goût à la vie. Là, par contre, je sais pas. Peut-être, est-ce qu'il y a une ou des églises qui vous êtes 500 personnes, puis c'est pas, on n'est pas dans les chiffres de l'orgueil. C'est pas ça, comprenez-moi en rêve. Est-ce qu'il y a une église ici, vous pouvez dire, nous, on est 500 chaque dimanche? Non, d'accord. OK, bon, on continue à rêver. Admettons que nous sommes 10 églises locales de 500 personnes chaque, ça veut dire qu'il y aurait 5000 personnes. On continue à arriver à une réalité comme celle-ci voudrait dire 500 personnes, c'est rare que tous les membres des personnes de l'église vont venir à un événement comme celui-ci. On va dire sur les 500, il y en a quand même 200 qui viennent à un événement comme celui-ci, par exemple. Ça veut dire qu'on devrait changer de salle parce qu'au lieu d'être à peu près 200-300 personnes, on tournerait autour de 2000-3000 personnes et c'est conservateur. Imaginez-vous un culte en commun, Jex, 3000 personnes en train, avec les enfants en train de chanter « Oh yes, Jésus est vivant !» Est-ce que je suis le seul à être excité ce matin? Oui, je pense, non, je ne sais pas. Imaginez-vous, on parle de 500 personnes, on ne parle pas d'une méga-église, c'est quelque chose d'atteignable. On parle d'une population, pays de Jex, où on est presque 100 000 personnes. Et 5 000, on peut dire quand même, 5 000, waouh, quand même, on pourrait dire quand même, c'est déjà personne n'a levé la main pour dire on est 500, peut-être c'est par modestie, mais il y en a peut-être une, deux, je ne sais pas. Mais c'est atteignable, c'est pas. Et pourtant on n'est pas là, mais ce serait extraordinaire pour dire quand même. Toutes les églises du pays de Jex, 5000 personnes qui adorent le Seigneur, qui se tournent vers lui à sa façon, avec ses variétés, avec son style. Waouh, quand même, c'est pas mal, ça serait quand même pas mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand même. OK. Prochaine diapo. Là, par contre, c'est le vertige. On a rêvé, maintenant, on va avoir le vertige. Il reste toujours 95 000 personnes en situation de crise spirituelle au pays de Jex. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste 95 000 personnes en situation de crise spirituelle. Et ça, c'est une image approximative parce qu'on n'est même pas 500 personnes par église. Vous imaginez la crise spirituelle dans laquelle notre pays se trouve, notre pays de Jex? Je crois qu'il est temps qu'on allume la lumière dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Alors maintenant, je vais resserrer le faisceau un petit peu plus précis. On a vu un peu la grande population et tout. Prochaine phrase. Tout ça, c'est Rocky Balboa qui m'a... Mais c'est le Saint-Esprit, c'est sûr. C'est sûr, c'est le Saint-Esprit qui s'est saisi de ce... À quoi ça sert d'être chrétien si ça ne change rien? Dans mon quotidien. Le sel et la lumière, la prochaine, le sel et la lumière dont Jésus parle dans les évangiles, les quatre références que nous avons vues, visent systématiquement les disciples. Il y a des foules aussi, d'ailleurs, il a dit que ceux qui ont des oreilles entendent, etc. Mais vous lirez, vous ferez l'exercice à chaque fois, il s'adresse aux disciples. Les disciples ne comprennent pas, les disciples, ça s'adresse aux disciples. J'aimerais tirer un petit peu la sonnette d'alarme, prochaine diapo. Jésus n'est pas venu faire de nous des bons chrétiens, mais formez en nous de vrais disciples. Quand il dit « Vous êtes le sel et la lumière de la terre », c'est spécifiquement, principalement, à ses disciples que ça s'adresse. Et si nous sommes ici, au 21e siècle, avec toutes les guerres et les persécutions qu'il y a eu sur la parole de Dieu et sur la foi chrétienne, tout est parti à partir de 12, je sais qu'il y en a eu 70 par la suite, 12 disciples, d'ailleurs les actes des apôtres le mentionnent, voici ceux qui bouleversent le monde. Bouleversons-nous notre monde. Peut-être qu'il est temps, mais là je vais parler pour moi, parce que avant de vous communiquer ce message-là, je l'ai reçu pour moi, puis je dis, bon, ben, faut pas que je souffre tout seul. Je vais le partager. Peut-être, je vais parler pour moi, peut-être qu'il serait temps, Philippe de la Fuente, que tu arrêtes d'être un bon chrétien, puis que tu redeviennes un peu plus un vrai disciple. Parce qu'un bon chrétien ne change rien. Dieu n'est pas venu rallier des chrétiens, il est venu former des disciples. À quoi ça sert? Il y a des enfants encore dans la salle. Si je vous présentais, je vous donne une... Peut-être tes parents diront, non, prends pas la boîte de coca qu'ils t'offrent parce que c'est mauvais pour la santé. Mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous, j'aimerais bien une bonne boîte de coca. Et que là, tu l'ouvres, et tu t'aperçois qu'il y a de l'eau dedans. Quelle déception. C'est pas bon, quand le produit, le liquide, la boisson n'est pas à l'image de l'étiquette. Et Paul nous informe, prochaine diapo, nous dit ceci dans 2 Timothée 3:5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je saute quelques versets, vous les connaissez par cœur. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et nous sommes dans cette ère-là, chers amis. Dans les derniers jours, sache-le, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et si je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des temps difficiles, moi, il y a des semaines qui sont plus dures que d'autres, mais il parle d'autre chose. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Autrement dit, il existera une forme de christianisme, une forme de piété qui aura renié la puissance de la foi. Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi le salerait-on? Et lorsque un sel perd sa saveur, il garde son apparence, il garde sa couleur blanchâtre, il garde son toucher granulé, sa texture granuleuse. Il a toutes les apparences du sel, mais il est insipide. Il a perdu toute sa puissance de donner du goût aux aliments et de conserver les denrées avariées qui pourraient être avariées. Et c'est exactement ça. Sache qu'il y aura l'apparence, mais OK. On continue. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En fait, Jésus appelle son église à un leadership, la prochaine, à un leadership inspirant, influent et incarnant. Jésus appelle son église à faire preuve d'un leadership, à faire preuve d'une présence inspirante. Une présence inspirante. Et ça, c'est là, parfois dans nos vies chrétiennes, on a plus tendance à être imposant que inspirant. Il nous appelle à prendre un rôle, vous pouvez enlever le mot leadership, il nous appelle à avoir un rôle inspirant et non imposant. Ça, c'est l'image de la première lampe. Si on l'allume, elle est branchée, mais si je l'allume, elle ne pourra pas s'allumer parce qu'il n'y a pas d'ampoule dedans. Il n'y en a pas. Non, je ne peux pas mettre les doigts. Vous savez quoi? C'est exactement des fois ce qui se passe. Il y a la puissance, elle est là. La connaissance, elle est là. Plus que la connaissance, il y a la vie, Dieu est là. Mais il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'ampoule. Ça n'éclaire pas. Un leadership inspirant, c'est comme le sel. Versus imposant, c'est comme le sel. Une petite pincée de sel fait toute la différence. Mais nous avons tous soit fait la blague à quelqu'un ou avons subi la blague de quelqu'un d'autre, ou dans notre dos, on verse la salière, on ne le sait pas. Et dernièrement, encore une fois, cette semaine ou la semaine passée, je regarde ailleurs, je mange mes cacahuètes, puis je sens que c'est le fond, puis je pense que c'est des petites graines de cacahuètes, je mets ça à la bouche, le blanc, et je l'ai recraché. Une poignée de sel, mais... Et ça c'est quand on est imposant. Ça, c'est quand on est imposant. Ça, ce sont ces personnes. Ici, on parle de gagner des cœurs pour Jésus. Ce sont des personnes, et moi, il faut que je me veille à ça, j'aurais une tendance comme ça, qui font preuve d'un zèle, d'une passion, mais qui ont plus de passion que de compassion. Ça, c'est le genre de personnes, très, très concrètement, ce n'est pas un exemple que je vous dis. Littéralement, moi, il y a des personnes dans le passé que j'ai connues, et lorsque j'avais quelqu'un qui venait, soit de ma famille, qui connaissait pas Jésus, qui était en cheminement, ou bref, littéralement, je m'organisais pour qu'ils ne rencontrent pas des amis. Et si je n'avais pas le choix, j'avisais les amis. Écoute, je vais juste te dire, je vais déjà parler de Jésus, c'est bon. Keep cool, relax, laisse faire. Parce que ce genre de personnes avec un leadership imposant vont arriver dans une place, peu importe le contexte, et puis commencer à sortir les 4 points du salut, puis la parole de Dieu, elle dit que, puis si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. Et là, on se dit, mais pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Ben ouais, mange une poignée de sel, puis tu auras compris. C'est comme si je vous disais, et pourtant, il y a un zèle, il y a une passion, il y a une ferveur, il y a une conviction qui est là, qui est solide, le jus est là, mais il n'y a pas l'ampoule. Ce jus n'est pas canalisé. Est-ce que tu veux mettre le doigt là-dedans? Non. C'est une folie. Personne ne veut mettre le doigt là-dedans. Une fois que la personne a goûté à ça, non, c'est bon. Toi, tu es bien dans tes trucs, moi, je suis bien dans mes affaires. Continue, on se verra la semaine prochaine. Ou un autre jour au travail, ou peu importe. Ça, ce n'est pas une approche assaisonnée, c'est une approche vinaigrée. Mais Jésus appelle son Église à faire preuve, à prendre un rôle, un leadership aussi influent et non impuissant. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. On est appelé, vous êtes le sel et la lumière du monde. Donc, il y a une influence qui est là. Ça influence le goût des aliments, ça influence la réalité environnante. En passant, j'allais parler en termes de jeunes, il y a une méga urgence dans ce texte. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il est en train de nous dire que le monde dans lequel on est n'a aucun goût. Il est en train de nous dire que c'est urgent. Il y a des gens qui se perdent, il y a des gens qui cherchent une réponse, il y a des gens qui sont perdus dans la noirceur totale. Vous êtes la lumière. On est appelé à avoir une influence. Dans les derniers temps, il y aura une sorte de christianisme qui présentera encore toutes sortes d'apparences. Les activités reliées à la foi seront là. Le discours, le vocabulaire, les liturgies, les programmes. Comme ce que j'ai pris ici. Et là, c'est l'inverse de l'autre lampadaire. Une belle ampoule de dogmes, de programmes, d'événements, de théories, de théologies. Super ampoule! Oh, elle est belle! Maximum de watts possible, boum! Ça, c'est l'image ici. Mais pas branché. Il n'y a pas de vie. C'est triste. On donne pas envie aux gens. Des belles théories, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'une des manières d'influencer ce monde, d'influencer notre société, c'est par la prière. Par la prière. D'ailleurs, il y a une dame... On peut voir, mettre la prochaine diapo, il y a des flyers à la sortie. J'en profite pour lui faire une annonce. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les deux dernières semaines. Elle vient me voir, bien écoute, je lui dis, ben, ça, oui, ça tombe bien. J'en parle justement. Elle vient de l'église du réveil de Gex. Et puis, il y a un flyer, il y a un programme qui est prévu du 4 au 5 mai. Ça s'appelle « Marcher, prier au pays de Gex ». Puis simplement dans le flyer, moi je l'ai résumé, hein, mais c'est dites-nous où vous avez marché. Donc il n'y a pas de pression si demain tu vas aller marcher à tel endroit, demain ou dans l'intérieur de ce 4 et 5 mai. Elle a eu ça à cœur. Elle a créé un mail, marché prier, PageX, Gmail. Elle s'appelle Wendy Musto. À la sortie, il y a toutes les informations. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas limité à ce 4-5 mai. Mais j'étais réjoui de voir ça. Je crois qu'on a besoin de prier. Je crois que si on veut influencer notre entourage... Et on a besoin de prier, non pas, premièrement, non pas tellement pour que Dieu transforme les cœurs, mais que Dieu façonne le nôtre. On prie toujours pour les autres. Moi, je prie beaucoup, Seigneur. Tu as tellement de travail avec moi-même. Commence par me changer, moi, s'il te plaît. Là, le standard, oui, évidemment, c'est par la grâce de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de prier. Je crois qu'il y a un cœur ici, dans cette salle, de voir. On parlait de population de 95 000, mais okay, oubliez les 95 000. Mets un nom sur ma tante Georgette, mon cousin, je vais sortir plein de noms, mais il y a ces statistiques ou cette population, ces chiffres-là, derrière ces chiffres, il y a un visage, il y a une histoire, il y a un nom, il y a un besoin, il y a une crise spirituelle. Ne nous relâchons pas, prions et brillons. Je crois que l'Église perd de son influence lorsqu'elle cesse de se remettre en question et de prendre des risques. Le sel amène quelque chose de... Le sel aussi a une dimension de longévité. C'est pas pour rien que dans la Bible, il est associé à l'alliance. Une alliance éternelle, une alliance de sel, c'est une dimension de longévité. L'évangile que nous avons a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Le message reste le même, mais je crois que nous avons besoin de nous remettre en question pour comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer ce message pour qu'il soit saisi dans la génération dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de nous poser des vraies questions. Et lorsque je vois où des personnes disent « mais moi, je ne veux pas aller à l'église », la première question, c'est oh « ouais, souvent on entend « ouais, tu sais, c'est dur, ils sont révoltés, ils sont rebelles ». Non, non, arrête, peut-être qu'il y a de ça. Mais est-ce qu'on peut se remettre, nous, en question? Pourquoi ils n'ont pas envie de revenir? Je ne parle pas ici d'apporter un évangile de compromis, rempli de compromis, puis qui arrange tout le monde, je ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'il y a moyen d'apporter Jésus d'une façon différente, qui inspire comme le sel, qui donne lueur comme la lumière? Et je crois qu'une église qui perd son influence, c'est une église qui a perdu l'idée de se remettre en question et de prendre des risques. La définition de la folie, est-ce que nous connaissons? Je pense qu'on la connaît tous, la définition de la folie. Elle est simple. C'est faire les mêmes choses de la même façon en espérant obtenir un résultat différent. Ça, c'est la définition de la folie. de faire les choses de la même façon en espérant qu'il y ait un résultat différent. La phrase qui tue les églises au niveau de son inspiration locale ou majeure, la phrase qui tue, c'est « Ah, mais ça fait 30 ans qu'on fait ça comme ça. » Ou, on va le dire autrement, « Ah, ici on ne fait pas ça comme ça. On n'a jamais fait ça comme ça ici. » « Ah, ben oui, mais maintenant, oui, OK. » Je veux dire, il y a 30 ans, il y avait 30 ans, ce n'est pas la même réalité sociologique. Et ça tue. Il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de « Mais est-ce qu'on peut faire ça différemment? Est-ce qu'on peut prendre un risque? Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. » Est-ce qu'on peut prendre un risque pour essayer d'aller chercher des gens autour de soi qui soient sauvés, qui reviennent à la vie, à l'espoir et qui louent le Seigneur avec nous? On a d'autres frères. L'apôtre Paul, on l'a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. L'apôtre Paul, on lui disait, Jésus lui disait. Est-ce qu'il y a moyen de faire les choses différemment? Je crois que notre objectif, et je termine bientôt, soyez rassurés. Notre objectif en tant qu'Église, je crois, devrait être de former des disciples. Et nous, en tant que chrétiens, devrait être de trouver quelqu'un, un mentor spirituel, un ou une, qui nous aide à grandir, un frère d'armes, un partenaire de prière, qui nous aide à grandir. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. À quoi ça sert d'avoir des églises par dizaines dans la région si on n'a pas un éclairage sur la question que les gens se posent au point de faire monter le niveau statistique à la deuxième cause de mortalité? Je prends des exemples extrêmes, il y en a des moins extrêmes, mais qui sont tout aussi importants. À quoi ça sert d'avoir des pasteurs, des leaders, des responsables d'église, si en bout de ligne, il n'y a pas des disciples qui sont formés à faire face aux épreuves, à tenir dans la tempête, à inspirer d'autres personnes? Là, je m'adresse aux bergers, aux pasteurs, aux prédicateurs, aux responsables d'église. Est-ce qu'on fait de la maintenance d'église ou est-ce que vraiment on a un cœur concerné pour notre génération et pleure? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'a pas. Je suis juste un peu volontairement en train de nous secouer pour dire qu'il y a 95 000 personnes qui sont en situation de crise. Et c'est nous, les responsables, je ne parle pas seulement des pasteurs, les responsables, les conseils, pas seulement, mais qui, au moins, en tout cas, nous devrions se poser la question et dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de différent pour que ce soit mieux. Et qu'est-ce qu'on doit garder parce que ça porte aussi du fruit. L'idée, ce n'est pas de tout jeter par la fenêtre, évidemment. À quoi ça sert d'être chrétien si les gens ne voient pas une différence? À quoi ça sert de connaître la puissance, la théologie de la puissance? Pardon, à quoi ça sert de connaître la théologie de la puissance de l'Évangile si nous ne vivons pas la puissance de l'Évangile au quotidien? Moi, je peux arriver à vous faire un super exposé sur la théologie, la puissance de l'Évangile, la puissance du salut et tout, mais si je la vis pas au quotidien, à quoi ça sert? C'est comme un lit sur lequel je ne me couche pas. À quoi ça sert d'avoir un message destiné à ceux qui sont sans espoir si nous l'enfermons dans un vocabulaire incompréhensible? Pourquoi? Parce que ça fait tant d'années qu'on fait comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut que ça soit? Mais il y a des gens qui ont besoin, c'est le message que nous avons, la Bible que nous avons, c'est pour les personnes qui sont en recherche de raison d'être, en recherche d'éternité, en recherche de... À quoi ça sert si on enferme ce message-là dans un vocabulaire incompréhensible? Et je termine avec ce dernier point, qui est l'exemple de Jésus. La lumière, elle est allumée ou elle n'est plus allumée? Elle est allumée. On s'habitue à la lumière. Jésus nous appelle à faire preuve d'un leadership ou prendre un rôle incarnant, c'est ce qu'il a fait, lui. Branché avec l'ampoule. La puissance de l'Évangile avec les œuvres préparées d'avance. La puissance de l'Évangile avec une énergie de « Oh, il faut qu'on fasse quelque chose !» Mais on le fait avec compassion, on le fait avec, oh, la première, avec tact, avec douceur. Ou lorsqu'on rencontre quelqu'un, au lieu de dire « Est-ce que tu connais Jésus? Tu vas aller en enfer si tu ne connais pas Jésus. » Est-ce qu'on peut s'intéresser à sa vie, lui demander comment est-ce qu'il s'appelle, d'où il vient, son parcours, et puis peut-être dans une semaine, trois semaines, si c'est le jour même, tant mieux, et tranquillement bâtir un lien de confiance. Je crois qu'on sera beaucoup plus le sel de la terre de cette façon-là que d'arriver à coups de Bible et écraser la tête des gens. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il s'est incarné. Jésus, c'est ce qu'il a. C'est l'exemple parfait. Connecté au Père, la puissance de Dieu dans sa vie, miracle, guérison, grâce de Dieu sur la femme adultère qui est accusée. Des extraordinaires, pas seulement les miracles, mais son attitude était exemplaire parce qu'il y avait une ampoule. Il y avait les deux. Je ne peux pas inspirer les autres si la source de mon inspiration n'influence pas mes actions. Yeah, ça influence. Je ne peux pas lutter contre la corruption qui m'environne si je suis moi-même infecté. Je ne peux pas résister aux pressions de l'épreuve si je ne nourris pas cette parole. Je nourris pas mon âme dans la présence de Dieu. Perdre sa saveur et sa lueur, en fait, ultimement, c'est passer à côté de la mission pour laquelle Dieu nous a créés. C'est comme rouler sur une autoroute avec une Ferrari à 40 km/h. Ça, c'est péché, ça. Ça, c'est perdre sa saveur, perdre sa raison d'être, perdre sa lueur. Et je termine avec, parce qu'en fait, personne n'a répondu à la question, on ne le voit pas dans le texte. Prochaine diapo. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, la question est là, avec quoi la salera-t-on? Parce que si vous êtes comme moi, en chair et en os, avec des faiblesses, comme n'importe qui dans cette salle, et qu'on est honnête avec soi-même, maintenant, à ce moment-ci du message, logiquement, là, si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réveillé en nous. La situation est encore plus grave alors que ce que je pouvais imaginer ou que ce que le Seigneur... Logiquement, à ce moment-ci du message, si vous êtes comme moi, quand j'ai reçu ce message, tu te regardes et tu dis « Ouais, je pense que j'ai perdu un peu de ma lueur. Ouais, je pense que je pourrais être un petit peu plus inspirant que ça dans mon caractère, dans mes attitudes, dans mes approches. Ouais, c'est vrai que mon engagement avec toi, Seigneur, te suivre, renoncer à tout, j'ai peut-être repris contrôle sur certaines choses dans ma vie. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses dans ma vie que je tolère, que je voyais comme quelque chose de grave, un péché qui me faisait peur, puis peut-être que là, j'accepte des choses que j'acceptais moins ou pas avant. Ouais, c'est vrai que je ne peux pas dire que je sois vraiment plongé mes racines dans la parole de Dieu. C'est peut-être pour ça que j'ai la difficulté à supporter la pression dans laquelle je me trouve. Conclusion, avec quoi me salera-t-on à nouveau? Et là, on peut sortir complètement découragé. Mais non, je n'avais jamais de ma vie vu ça dans ce texte-là. Il n'est pas dans ce texte. Et je le partageais avec un frère, un ami, Pierre Boinel, on priait et je dis, hey, tu sais pas quoi, c'est possible de retrouver sa saveur. Yes, j'ai trouvé, c'est possible de retrouver sa saveur. Il y a un espoir que personne sorte de ce lieu, les épaules courbées, le cœur culpabilisé dans la condamnation. Non, la réponse, elle est là. La réponse n'est pas avec quoi la salera-t-on, mais avec qui? Yes! Parce qu'il y en a un que je n'ai pas mentionné, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Ah! Et je partage ça, et regardez la richesse du partage fraternel. Ne restons pas seuls les uns avec les autres. Regardez la prochaine. Vous avez bien vu, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Et avant de la présenter, la prochaine, et là je présente ça à Pierre, et là vous allez voir, le prochain verset, ça ne vient pas de moi, mais je trouve que ça vaut la peine de le mettre, vraiment. C'est la version Pierre Boinel. Et en passant, j'ai repris la version Sommer, qui ne dit pas avec quoi la rendra-t-on, mais avec quoi la salera-t-on. Maintenant, la version Pierre Boinel, je lui partage ça, il dit « Ah ouais, il dit, regarde !» Regardez la prochaine. « Si ce sel perd son sauveur, avec quoi la sauvera-t-on » Je trouvais ça super bon. Ça, c'est la richesse de la communion fraternelle. Tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus efficacement, tu comprends beaucoup plus de choses de la parole de Dieu que tout seul dans son coin. Trouve-toi un frère, quelqu'un en qui tu peux te déverser. Trouve quelqu'un qui se déverse en toi. Ne restons pas seuls et la saveur et la lumière de Jésus va être à travers nous. Et voici pourquoi. La réponse n'est pas dans le quoi, mais dans le qui. Tu ne peux rien changer à ta situation tant et aussi longtemps que tu cherches la solution dans quelque chose plutôt que dans quelqu'un. Et la prochaine diapo ici, c'est Jésus, après avoir guéri l'aveugle, va dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Mais le petit mot « pendant », pendant que je suis dans le monde, pendant que je suis là physiquement, c'est moi qui suis la lumière du monde. C'est une des rares, sinon la seule caractéristique où dit, comme le lit royal, vous êtes la lumière, alors que la lumière du monde, c'est Jésus, on est d'accord. Mais c'est comme s'il disait « pendant que je suis là, c'est moi ». Et c'est comme il part, maintenant c'est plus moi, c'est vous. Moi je suis parti, je ne peux pas faire plus. Mais tout ce que tu as à faire, c'est reste connecté à moi, reste connecté à tes frères et sœurs, reste connecté à ma parole, reste connecté et tu vas briller. Tu vas ressembler à quelqu'un qui revient de vacances. Je peux pas voir le soleil, mais si tu passes sur la plage une semaine, deux semaines, tu reviens tout bronzé. Mais dans la présence de Jésus, tu n'es plus insipide, tu n'es plus fade, tu n'es plus mort. Tu es rempli de couleurs, tu es rempli de joie, tu es rempli de vie. Les gens vont dire, mais c'est où que tu vas? C'est où que tu adores le Seigneur? Ah ben écoute, c'est bien que tu en parles, tiens, à telle heure. Voyez-vous? Alors c'est qui aujourd'hui? J'aimerais qu'on puisse terminer. Alors que le Seigneur nous appelle aussi ailleurs à être des flambeaux dans cette génération, à briller. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant et qu'on puisse laisser descendre cette méditation, ce message dans nos cœurs. Dire, Seigneur, j'ai besoin. Avec quoi la salera-t-on? Honnêtement, mes œuvres? Non. Mes efforts personnels? Non. Mes résolutions? Ah ouais, là, c'est non. Non. Non, Seigneur. Avec une religion, avec une institution, avec un programme, avec un livre? Non. Non, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais revenir à toi. Aujourd'hui, je m'approche de toi. Les 95 000 personnes, pour moi, c'est inatteignable, c'est trop grand. Mais des gens que je fréquente régulièrement au travail, à l'école, au lycée, redonnent goût à ma vie, redonnent lueur à ma vie. Et plusieurs d'entre nous, ce matin, peut-être vous êtes fatigués, légitimement, des épreuves familiales, de santé, des prières non répondues, des drames, un épuisement spirituel, une lassitude, et la lumière, elle baisse, et la saveur diminue. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut, je crois, il veut, il peut redonner goût, redonner grâce. Je prie que chacun d'entre nous puisse sortir de ce lieu et dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. On a chanté mon Sauveur sauve avec puissance. C'est plus qu'un chant, c'est la vérité. Jésus, viens.
Il sauve avec puissance, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, Créateur du salut. Le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
S'il y en a qui veulent simplement exprimer leur voix dans la prière, vous pouvez prendre votre liberté avant de clôturer ce message. Et Seigneur, on veut te dire merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour nos frères, nos sœurs, merci Jésus pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour dans nos vies. Et dans cette région, Seigneur, à la lumière de tes propres paroles, nous réalisons que tu es en mesure de faire beaucoup plus à travers les uns et les autres. Et Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous, sans exception, ici aujourd'hui, et nos églises représentées, même non présentes ce matin. Seigneur, tu connais les situations de vie, tu connais les défis. Je prie pour un second souffle. Je prie pour une nouvelle saveur. Je prie, Seigneur, pour un nouvel élan, pour une lumière qui redouble de brillance, Seigneur Jésus. Je prie, viens, déverse tes compassions, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, redonne-nous ce premier amour, cette joie, cet enthousiasme du premier amour. Accorde-nous, Seigneur, d'être sage, d'être dosé, Seigneur, dans notre approche. Mais Seigneur, viens redonner vie, Seigneur, à ce qui est mort en nous. Viens redonner, Seigneur, énergie à ce qui a perdu. Seigneur, tu connais, toi, chacun et chacune d'entre nous. Et je prie que ce soit une journée où tu relèves, une journée où tu restaures, une journée où tu redonnes. Avec quoi la redonnera-t-on? Redonnera-t-on sa saveur? Et tu es celui qui redonne. Tu es le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Tu es le Dieu qui relève aussi longtemps que l'on tombe et qu'on se tourne vers toi. Tu te plais à relever le faible. Nous l'avons chanté, Seigneur. Lorsque je suis faible, c'est alors que tu es fort, que je suis fort en toi. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu n'es pas le Dieu qui est venu mettre une condamnation et un poids et nous montrer à quel point nous sommes incapables. Mais tu montres nos incapacités justement pour que se tourne vers toi, vers ce Dieu qui est pleinement capable. Et on se tourne vers toi ce matin, Seigneur, plus que jamais. Et nous prions pour ta faveur sur chaque et chacune de tes églises représentées ici et dans ce pays, Seigneur, ce pays de Gex. Touche les cœurs, touche nos cœurs. Fais de nous des disciples. Amen. Amen. On va terminer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier ensemble la prière de notre Père. Et si vous êtes d'accord, oui, ça va? Et après ça, je vais céder la place à mes frères. Les versets vont s'afficher à l'écran. Donc ensemble, la prière de notre Père de Matthieu 6, 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.
Merci Philippe, merci à tous les participants, notamment merci aux musiciens et merci à vous tous qui êtes venus et pour ce culte qui a été assez long, qui est assez long mais qui va se terminer très bientôt. Et je voudrais dire simplement que vous êtes invités pour prendre un verre de l'amitié juste à côté, tout de suite après. Avant de partir, si vous voulez bien, vous prenez votre chaise et vous le posez là, vous faites des piles de 15 chaises. Ils sont très stricts ici, on connaît la maison, ils sont très gentils parce qu'ils offrent ces lieux, mais il faut respecter quand même les consignes. Donc des piles de 15 chaises sur les côtés, enfin sur ce côté-là plutôt, hein, je pense. Voilà. Donc avant de passer à l'offrande, enfin pour animer ce moment très court, l'offrande, donc déjà, comme d'habitude, est... sera donné ou distribué dans deux directions, c'est-à-dire une partie pour les calendriers. On a parlé des maisons de retraite. Tous les ans, on offre des calendriers aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Et la moitié de l'offrande sera dédiée à ces calendriers, à l'achat des calendriers, donc à la pastorale qui achète les calendriers. L'autre moitié, cette année, c'est un choix que nous avons fait, c'est de distribuer aussi cet argent pour les besoins de l'aumônerie ou des aumôneries. On va entendre parler rapidement de cela. Donc j'ai compris à Saint-Julien et à Annecy. Mais je vais inviter en particulier Jean-Michel, je crois que c'est Jean-Michel, qui viendra justement aumônier dans ce coin-là. Il va me dire exactement où. Et pour dire un tout petit peu ce qu'il en est. Et pendant ce temps-là, justement... Je pense que l'offrande, enfin les paniers peuvent passer. Si les mêmes personnes qui ont distribué la scène pouvaient distribuer les paniers, ce serait bien. Merci beaucoup. Je passe la parole.
Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Donc, deuxième bizutage. Alors, je vous présente Ingrid. C'est mon épouse. Ça fait bientôt 50 ans qu'on partage la vie à deux. Et Ingrid... est la première auxiliaire d'aumônerie. Moi, je suis Jean-Michel Martin, l'aumônier, et nous sommes la deuxième année en fonction. Nous fonctionnons sur le site de l'hôpital à Métessy, à Annecy, et sur le site de Saint-Julien-en-Genevois. Et nous avons pas mal de gens qui viennent, parmi les pensionnaires ou les malades, qui viennent aussi du Pays de Gex. Alors, nous sommes très heureux que vous puissiez faire notre connaissance et de faire partie de la famille de ce matin. Juste en une minute. Donc moi, Daniel m'a dit, j'ai 2 minutes. J'ai déjà pris 15 secondes. Alors, nous sommes déjà en charge officiellement. Nous avons commencé à monter une équipe. Pour l'instant, nous sommes 8 membres de l'aumônerie protestante du change. Et pendant longtemps, je me suis pendant plusieurs semaines posé la question, en tant qu'aumônier, est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi ou est-ce que c'est moi qui ai choisi? Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé la solution. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ce matin? J'ai accepté d'avoir été choisi par Dieu. Et j'aimerais lancer un appel. Nous, sur le site d'Annecy, nous faisons nos visites le lundi après-midi. Sur le site de Saint-Julien, nous les faisons le vendredi après-midi de manière systématique parce que les autorités de l'hôpital nous ont demandé, en tant qu'aumônerie protestante, de intervenir en semaine et pas le week-end, parce que le week-end, il y a déjà les familles qui visitent les gens. Alors, nous faisons nos visites systématiques le lundi et le vendredi, des visites ciblées, mais nous répondons aussi à des appels n'importe quel autre jour. Alors, si vous sentez que Dieu vous appelle, et si vous faites comme moi, si vous acceptez d'avoir été appelé par Dieu à ce ministère de l'aumônerie, nous sommes demandeurs, nous avons envie de renforcer notre équipe. Et si vous sentez que Dieu vous appelle, s'il vous plaît, acceptez d'avoir été appelé par lui pour amener aux gens qui sont en souffrance ou bien à leur famille cette présence. Parce que comme on nous l'a dit ce matin, vraiment, un monde sans sauveur, c'est un monde sans saveur. Et on veut renforcer notre équipe pour apporter encore plus de saveur. Alors, et nous faisons aussi la formation des gens qui se sont appelés. Alors, si vous sentez que Dieu vous appelle et si vous acceptez d'avoir été appelé par lui, nous sommes là pour faire votre connaissance et pour vous expliquer comment on va continuer la suite du chemin avec lui. J'ai aussi emmené un petit flyer que nous avons rédigé. Là, on va vous le donner pour que vous puissiez mieux nous connaître. Voilà. Merci de nous avoir acceptés aujourd'hui.
Il y a peut-être pas assez de flyers pour chaque personne. Donc, prenez-en un par famille, peut-être.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce ministère et que le Seigneur vous bénisse dans ce ministère. Avant de chanter un dernier chant, je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Allons sur les routes de la vie. Nous ne sommes pas seuls. Ouvrons nos mains, partageons notre pain, libérons nos peurs. Oublions nos peurs, libérons nos cœurs. Que le Dieu de la paix, de l'amour et de l'espérance nous bénisse aujourd'hui et éternellement. Amen. Et je vous invite à chanter le chant « À toi la gloire ».
À toi la gloire. À toi la gloire, ô Rédempteur.
gloire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien.
Dernière fois, tous ensemble.
À toi.